Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible pour la méditation de ce dimanche matin. Alors, je vous propose une première lecture dans l'Évangile de Luc, chapitre 11. Voilà, chapitre 11, et c'est ce qui va nous servir d'introduction. Et nous parcourrons également d'autres textes pour enrichir notre pensée. Alors, je rappelle Luc, chapitre 11, verset 14. Un épisode de la vie de Jésus nous est relaté. Et Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Voilà pour cette introduction. Vous avez compris que il y a là en confrontation Jésus et puis ces juifs religieux qui sont autour de lui, qui le suivaient à la trace pour essayer de le compromettre. Or, Jésus fait quelque chose qui atteste qu'il a reçu l'autorité d'en haut, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est doté et accompagné de surnaturels et de miracles. On l'a devant nous, Jésus chassa un démon. Faut-il y croire, au démon? Faut-il croire qu'il y a un surnaturel divin et un surnaturel malin, on peut le dire de cette manière. Et chose assez étonnante, et vous en conviendrez que ce sont précisément, des gens qui appartiennent à Israël, qui font partie du nec plus ultra de la nation, croyants, juifs, israélites jusqu'au bout des ongles, si on peut ajouter cela, qui vont, accuser Jésus. Oh, je crois que le terme accusé est insuffisant. C'est un outrage à la personne de Jésus. C'est une injure, c'est un blasphème que ces gens de la synagogue ou du temple, vont opposer à Jésus. Et Jésus n'a rien demandé, il a fait. Il n'aura pas posé de questions, il n'aura pas dit « qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de faire ?» Non, il nous a dit qu'il a chassé un démon qui était muet, donc un esprit de mutisme, on peut le traduire de cette manière. Et puis voilà que ce qui était certainement le déclencheur de l'inimitié, de l'animosité contre Jésus, c'est que la foule était dans l'admiration. Et ça faisait concurrence, ça faisait de l'ombre probablement à toute la mononclature, à tous ces princes d'Israël qui se disaient « Mais alors, qu'est-ce qu'on est nous ? Qu'est-ce qu'on est ?» Ah ben c'est sûr qu'il chassait pas les démons, il les caressait. C'est sûr qu'il ne chassait pas les démons, il les entretenait. Alors c'est certain que tout cela, de voir la foule qui dit « Mais c'est extraordinaire Jésus, c'est merveilleux, c'est quelque chose de d'inouï » parce que nous quand finalement on est confronté avec ce monde occulte, ce monde en a peur, on a des craintes, alors quant à finalement aller plus loin. Donc c'est un outrage, je le répète, qui est fait à Jésus au nom d'un étrange énergumène qui s'appelle tout simplement Belzébul. On l'a vu. Mais quelques-uns dirent, c'est ces fameux dont je vous parle, mais quelques-uns dirent, ah, Ben moi, je vous dire, ils devaient se le dire les uns aux autres avec un sourire entendu, avec une moquerie, finalement, qui était certainement pas déguisée. Mais c'est par Belzébul qu'il chasse, finalement, les démons. Donc, Jésus, ben, vient du diable. Ce fameux Messie dont il se prétend être l'envoyé de Dieu, bah, il peut pas venir de Dieu, c'est pas possible. Son maître, eh bien, ça peut être que, finalement, le diable, Belzébul, énergumène, parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez étrange quand vous regardez dans le dictionnaire, ce que veut dire énergumène, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est dérangé, quelqu'un qui, finalement, eh bien là, n'est pas dans la lumière, hein, quoi qu'il en soit. On l'emploie quelquefois quand on parle de quelqu'un qui nous semble bizarre. Quelle énergumène! Mais quand on sait jamais ce que l'on dit, si bien que quand on emploie le mot, parce que ça fait partie du monde de l'occulte. Ça fait partie du monde, tout simplement, eh bien, qui n'est pas clair, qui n'est pas dans la lumière. Alors, il y a un nom qui est prononcé pour enfoncer l'accusation, mais vraiment blesser le plus profondément. Oui. C'est comme si, par exemple, quelqu'un venait vous dire avec une véritable conscience que vous êtes chrétien, authentiquement chrétien, que vous vivez en chrétien et que vous parlez en chrétien, et qu'on vous dit, parce que c'était dit ça, ben dis donc, hein, tu viens du diable, toi, hein. Ça vous choquerait peut-être un petit peu, non? Ouais, quand même, on sait d'où on vient, non? Mais oui, ils savent pas de qui ils parlent, et par qui ils parlent. Donc, on va accuser Jésus de Belzébul. Et c'est le Dieu, finalement, comme il est dit, c'est tout simplement prince des démons. Alors, comprenez que Jésus, certainement, quand il a entendu ça, mais Jésus sait se défendre, hein, faut le laisser faire. Littéralement, c'est le dieu du fumier, Belzébul. Eh ouais. Dans le texte, hein, c'est le dieu du fumier, ou alors Belzébuth, c'est le dieu des mouches. Vous conviendrez que les mouches et le fumier, ça va ensemble. C'est osé, hein? Et encore, il y a des traductions qui sont encore beaucoup plus hardies que celle-ci, hein? Parce que moi, je lis dans second, là, en ce moment, hein? Et nous voyons que prince des démons, qui est Belzébul? Alors, c'était un dieu qui avait cours, un dieu païen, hein? Un dieu qui était vénéré en Philicie, et puis à Babylone. Et vous retrouverez, peut-être, si vous êtes attentif aux mots qui nous sont donnés dans la Bible, c'était Marduk chez les uns, ou alors Merodach chez les autres. C'était un dieu qui était vénéré avec toutes sortes de cultes, occultes, ou peut-être même on allait jusqu'à sacrifier des enfants, hein, couper la gorge et tout ça, on offrait aux dieux, etc. C'était quelque chose d'abominable. Hein. Ça, c'est le pire. C'est le pire. Vous savez que les mouches ont cette prédilection, et ça c'est naturel chez elles, hein, elles vont pas aller sur la bouteille de Monsieur Propre, hein. Je fais de la publicité, non? M'excuserez. Non. Elles ont cette prédilection pour la souillure, pour l'impur, pour la saleté, pour la mort. Parce que là où il y a finalement, eh bien, la mort, elles vont dessus, hein, c'est ça. Alors, c'est toute une méditation qui est assez intéressante, parce que quelquefois, je me suis demandé, et je voudrais vous rassurer tout de suite, hein, quelquefois il y a des chrétiens qui sont venus me voir, hein, en disant, mais qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit? On s'est tous posé la question. Certains m'ont dit, j'ai cette semaine commis le blasphème pour le Saint-Esprit, je suis perdu, je suis damné. Alors tout de suite j'arrive pour soigner, et puis rassurer. Parce que si elles disent, c'est qu'elles ne sont pas. Parce qu'elles ont conscience. Non, non. Alors on va remettre les choses en place et que soyez tranquillisés, hein. Moi, je crois qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, dont le corps est le temple du Saint-Esprit, ne peut pas prononcer le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pas possible. On ne peut pas dire Jésus est anathème. C'est pas possible. Alors, il y a toutes sortes d'autres péchés, il y en a des catégories, et ça, autant que le monde est le monde, et puis que le péché existe, ça c'est sûr qu'il y en a d'autres. Péché selon dans la chair, le péché dans l'esprit, mais le péché dans l'esprit. Quand vous avez des juifs qui ont été pétris d'une connaissance pendant des siècles et des siècles, enfin génération en génération, et qui voient Jésus arriver, qui attendent leur Messie, qui voient Jésus arriver, et qui voient les œuvres de Jésus, qui entendent ces paroles ineffables venant du ciel, qui frappe la terre de sa grâce. Quand je dis frapper, c'est pour montrer le jaillissement et toute la puissance de Dieu, avec des signes, des miracles, avec des résurrections, avec des guérisons, avec des actes d'amour. Comment peut-on dire que Jésus vient du diable et que son maître c'est Belzébul? Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit, parce qu'ils savent. Et finalement, malgré qu'ils le savent, à main levée, ils disent c'est faux, c'est le rejet de la vérité en ayant la connaissance de la vérité. C'est ça le baptême, le blasphème contre le Saint-Esprit. Heureusement que vous êtes là pour me rectifier, parce que c'est bien, je vous remercie beaucoup. Eh oui, ça c'est le pire. Le pire. Et c'est terrible, hein. C'est terrible. Alors, puisque nous parlions des mouches, vous savez où il en est parlé dans la Bible? Pardon? Ah, c'est le prince des mouches, si on veut, oui. Non, non, vous savez où il en est parlé? Dans Ecclésiaste, hein, chapitre 10, verset 1er. Et on va voir ça ensemble. Alors, je répète, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er. Écoutez bien. Le titre que j'ai sur ma Bible, c'est « La réflexion sur la folie ». Parce que c'est ça la question. La sagesse et la folie. Nous venons de voir un épisode de folie humaine. Et pas de folie de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais des gens qui connaissent Dieu. La folie des Juifs. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Alors vous savez, le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Je suis désolé de vous le dire, on a tous le cœur à gauche. Donc il n'y a pas de sage, il n'y a pas d'intelligent, il n'y a pas de gens qui sont supérieurs aux uns aux autres, on a tous le cœur à gauche. Eh oui. Et c'est quand même là quelque chose qui nous parle. Ces quelques mots, c'est tout simplement une leçon sur la corruption du meilleur. Ah oui. Vous savez que le Seigneur nous a été nous chercher avant notre conversion, alors que nous étions dans le pire. Ah, nous étions perdus, nous étions condamnés, nous étions privés de la gloire de Dieu, nous étions finalement en dehors du salut et de la rédemption. Ça, c'est le pire, hein. Qu'est-ce qu'on peut trouver de pire? Et il nous a amenés au meilleur. Le meilleur, c'est la conversion, c'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes devenu. Nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes dans le meilleur. Si vous avez pensé que c'est pas encore tout à fait suffisant, ben vous voyez ça avec le Seigneur. Tout est accompli. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés par l'éternité. Nous sommes sauvés par la foi, non pas par nos œuvres. Voilà les choses qui sont... Nous sommes dans le meilleur maintenant. Nous pouvons nous réjouir malgré les vicissitudes de l'existence, mais nous pouvons nous réjouir. Mais ce que veut nous dire le texte, c'est que nous avons pu être dans le pire. Nous sommes parvenus au meilleur, mais c'est terrible quand le meilleur retourne au pire. On appellerait ça peut-être rétrogradage. On appellerait peut-être ça faire marche arrière, renier le Seigneur et partir finalement dans une direction qui n'est pas selon le plan de Dieu. Du pire au meilleur. Il est question dans notre passage que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Eh oui, elles sont mortes là. Bon. Mais même si elles étaient vivantes, c'est pas quand même la propreté. Elles infectent et font fermenter. Et l'huile du parfumeur, le nard de grand prix dont nous trouvons aussi l'expression dans la Bible, un parfum suave, délicieux. Quelque chose qui, véritablement, eh bien là, est enchanteur. Quand il devient rance, quand il se corrompt, vous n'avez pas forcément envie d'en mettre sur vous, hein? D'accord? On sait tous les uns et les autres parfumés, je pense, ce matin. Enfin, il faudrait pas rentrer dans votre intimité, vous faites ce que vous voulez, hein? C'est vrai, les messieurs se sont bien rasés avec un nafte chèvre. œuf de chèvre. Mesdames, c'est comme ça, hein. D'accord. Ce sont les habitudes, et c'est bien, il n'y a rien de mauvais, non? On va pas dire que c'est un péché quand même, non? Bon, alors, l'huile est fermentée du parfait. Et c'est pour ça qu'il est dit tout de suite, deux points, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Eh oui, la sagesse, sagesse que Dieu nous a donnée, même si nous ne sommes pas sages, mais néanmoins nous sommes couverts par la sagesse de Jésus. Et la gloire, nous sommes aussi parvenus à la gloire du Seigneur, qui deviendra totale, parfaite, qui deviendra éternelle, qui ne nous sera jamais ôté cette gloire d'avoir cru en Jésus-Christ. Eh bien, il nous est dit que une mouche qui meurt, ou quelques mouches qui tombent dans l'huile du parfumeur, l'huile c'est l'onction, hein. Eh bien voilà que tout est gâché. Dans le livre de l'Exode, il nous est donné cette parole, au chapitre 30 et au verset 25, il est question de la fabrication, justement. Oui. Alors, je ne voudrais pas que ça soit trop compliqué ce matin, hein, mais c'est la Bible. Hein. Voilà. C'est Dieu qui parle à Moïse. « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. » Eh oui. C'est pas n'importe quel parfum, hein, il est réservé, là. Hein. « Composition de parfum selon l'art du parfumeur. » Ce sera l'huile d'onction sainte où on appliquait sur la tente d'assignation, sur les fronts, etc., etc. L'onction sainte. Pour vous rappeler qu'encore une fois de plus, je voudrais pas insister trop parce que c'est quand même assez répugnant, mais la mouche, c'est un petit insecte commun que l'on trouve partout, sous toute latitude, de petite taille naturellement, d'apparence insignifiante et sans danger. Oui, c'est vrai, c'est pas parce qu'on voit une mouche qu'on va se renfermer là dans une, hein, qu'on va prendre. Non, il y en a partout. Et c'est sûr que c'est un signe de chaleur, hein, quelque part. Hein. Oui, mais c'est insignifiant et sans danger. Or, je reviens à notre verset. La mouche, vivante ou morte, elle infecte et fait fermenter l'huile du parfumeur. L'explication nous est livrée, tout simplement, dans la comparaison avec les mots folie et sagesse. Un peu de folie fait tout gâcher, et gâche tout, et la sagesse. Et nous apercevons que la première, la folie, va prévaloir sur la sagesse. Oui, elle prévaut sur la sagesse. Les mouches qui tombent, ou qui meurent dans la coupe du parfum, la coupe de parfum, ce sont toutes les petites participation dans notre vie. C'est vrai, nous. Alors, j'aurais quand même ouvrir une parenthèse quand même. C'est que n'allons pas nous imaginer parce que nous sommes chrétiens que nous sommes parfaits. Hein. Non. Mais néanmoins, il y a quand même un petit rappel qui nous est donné. Les petites participations, tout est petit, là, vous allez voir. Mais de petit, ça peut devenir énorme. Ça peut devenir finalement quelque chose de très grand. Et ce sont les petites concessions que nous pouvons faire. D'une manière ou d'une autre. Ce sont des petites négligences de ceci ou de cela dans notre vie chrétienne, qui semblent anodines en disant, c'est pas grand chose. Pas grand chose. Vous vous souvenez que nous sommes sortis du pire, hein, mais quelquefois nous emmenons un petit peu quelques bagages, quelques souvenirs du pire dans ce que nous sommes devenus et advenus par la grâce de Jésus. Donc, négligence, participation, concession. Mais il y a un rappel dans la Bible qu'on se souvienne de Samson. Vous connaissez Samson? Hein, vous savez, celui qui avait des beaux cheveux et qui s'est laissé couper les cheveux entre les bras de Dalida. Je l'ai fait exprès. Dalila. Hein, et qui l'a caressé, qui lui a dit « Mon chéri, tu sais, tu peux pas savoir combien je t'aime. » Et lui, le grand Béné, il a entendu tout cela. Il s'est endormi, quand il s'est réveillé, il a fait plus de cheveux. Or, c'est symbolique, mais c'était dans sa chevelure qu'était sa force que Dieu lui avait donnée. Eh oui, vous savez qu'il a mal fini, hein, le pauvre Samson. Hein. Ouais. On lui a crevé les yeux, on l'a fait tourner là, hein, jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il n'en puisse plus. Et puis à un moment donné, pendant qu'il faisait tourner, les cheveux ont poussé. Ça, c'était une surprise. Hein. Et quand... Il a fait éclater finalement, et bien le temple. Il paraît qu'il a tué plus de gens dans sa mort, il a entraîné dans la mort plus de gens que quand il était vivant. Et pourtant, c'était quand même, il était allègre, hein, quand même, pour la mâchoire de d'âne. Vous décodez, hein, quand même, tout ça. Hein. Oui, d'accord. Eh oui. Ça a été, tout simplement, écoutez bien le mot, l'amenuisement de ses forces spirituelles. En quelque sorte, l'affaiblissement de ses forces spirituelles. C'est très symbolique, Samson, mais ça peut nous servir. Et puis, ben voilà, hein. Voilà, il a disparu à ce moment-là. Le parfum a une action olfactive. C'est fait pour ça, d'ailleurs, hein. Cette action n'est pas visible. Elle n'est pas audible, heureusement d'ailleurs, hein. Et encore moins gustative. C'est pas parce que vous allez goûter que non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas palpable non plus le parfum, mais il y a une odeur qui traduit, qui révèle la présence de celui ou de celle qui est parfumée. On reconnaît certaines personnes à son parfum. Hein. Alors il faut ce qu'il faut, hein, faut pas trop. Hein. Parce que alors là, c'est terrible. Hein. Quelquefois, ça nous est arrivé de croiser des gens comme ça à l'extérieur. J'en dis pas plus. C'est apprécié à sa juste valeur, dans la bonne mesure. J'en dirai pas plus, c'est bien comme ça. Mais on pourrait peut-être parler du parfum du chrétien. Vous voulez ? Ah oui, parce qu'il y a des choses qui nous sont dites hein, dans la Bible. Le parfum du chrétien, parce que le chrétien dégage une odeur, et une bonne odeur spirituelle, et il nous est parlé de l'odeur de Christ. Eh oui. Alors, on va aller faire un petit tour dans maintenant un autre texte. Dans 2 Corinthiens, si vous le voulez bien, il y a tout ce qu'il faut, hein, de toute façon, dans la Bible. Hein. Alors, si vous voulez trouver des références, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? C'est une victoire en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, à travers nous, par notre intermédiaire, je suis en train de paraphraser, hein, en tout lieu, quel qu'il soit, l'odeur de sa connaissance. Eh oui, sans rien dire, sans rien faire, sinon être là, dans mon milieu d'entreprise, dans ma famille, dans mon couple, auprès des amis, auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ. Vous vous rendez compte ? Ah oui, parfum du salut, parfum de Christ, parfum de la grâce, parfum de la vie. Où là, on n'a pas besoin de se mettre le mouchoir devant le nez parce que ça devient irrespirable. Non, au contraire. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Les uns, une odeur de mort. Eh oui. Donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Alors, qui est suffisant pour ces choses, hein ? Eh oui, Seigneur, nous portons quelque chose qui est une odeur de vie. Et il y a des hommes qui portent une odeur de mort. Eh, des hommes, voilà, qui sont loin de pouvoir être identifié avec Jésus, on le sent. Et nous, nous le sentons parce que il y a un esprit de discernement dans notre vie, hein, don de don spirituel. Quelquefois, dans certains milieux ou dans certains contextes, ou lorsque nous regardons certaines scènes ou certaines choses, on se dit, mais c'est pas la vie, hein. Au contraire, c'est une répugnance. On sent ça sent la mort. À travers des discours, à travers des paroles, à travers, là, toutes sortes de choses, on dit, mais, là, là, il y a une répulsion chez nous. Mais c'est normal. Parce que nous portons l'odeur de Christ, l'odeur de sa connaissance, l'odeur de sa vie, de sa grâce. Eh oui, parce que nous portons un rayonnement. Et sans rien dire, nous sommes, nous dit l'Écriture, une lettre écrite. 2 Corinthiens, chapitre 3 encore, parce que c'est intéressant quand même de se souvenir de cela. 2 Corinthiens, chapitre 3, nous allons voir que, eh bien, c'est souligné aussi, hein. 1 à 6, verset 2. C'est vous qui êtes une lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur nos cœurs. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, verset 6, hein, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Vous savez, je ne sais pas si ça se fait encore, mais quelquefois, et ça ce sont les adolescentes qui font ça, adolescentes, hein, les garçons, c'est pas pareil. Ils achètent du papier à lettres parfumées. Oui? Pas du papier d'Arménie, hein? Oui. Alors c'est très intéressant parce que vous avez tout là. Hein? Bon, c'est très mignon, en tous les cas, on peut dire ça. Ouais. Nous sommes une lettre écrite, et quand les gens ouvrent la relation, que nous ouvrons la relation, ils puissent sentir la bonne odeur de Christ à travers nos paroles et notre comportement. Dans Éphésiens également, je multiplie quelques textes, hein, on ne va pas y en avoir beaucoup, mais pour dire simplement quelque chose, dans Éphésiens, là aussi, eh bien, nous avons au chapitre 4 et au verset 25, chapitre 4, verset 25, pour nous montrer que nous pouvons être aussi porteurs d'une mauvaise odeur. Voilà, si nous ne nous parfumons pas de Christ. C'est pourquoi renoncer au mensonge, ça attire les mouches, hein, le mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, parce que la fausseté, l'hypocrisie, ça attire les mouches. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère, et donnez pas accès au diable, parce que lui, il est véritablement, eh bien, l'image emblématique de la corruption. Et la corruption, elle attire les mouches aussi. Que celui qui dérobait ne dérobe plus le vol, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche. Alors là, il y a tout ce qu'il faut, hein. Quelquefois, il y a une mauvaise haleine, hein. Parce que là, c'est le négatif que je suis en train de prendre. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Et soyez bons les uns avec les autres et pardonnez-vous réciproquement, comme vous, vous êtes convaincus que vous avez été pardonnés par Jésus. Ah là là, on enlève le bouchon de l'humanité, on enlève le bouchon quelquefois de ce qui peut rester encore dans le cœur des âmes, même des chrétiens. On l'a vu avec les juifs fanatiques, blasphémateurs de Jésus, l'outrageant. Eh ben, si on enlève ce bouchon-là, il va tout sortir, vous comprenez. Alors que nous sommes recommandés, que nous sommes une lettre écrite. Nous sommes la bonne odeur de Jésus, c'est le contraire, naturellement, tout cela. Le parfum sur le visage, eh bien, traduit l'état du cœur, oui. État du cœur. Maintenant, il ne faut pas que le parfum masque le mauvais cœur. Parce que souvent, il y a souvent du maquillage et il y a souvent du travestissement aussi. Hein. Parce que c'est ça, hein, finalement, dans le monde. Quelque part, l'état intérieur est tellement mauvais, tellement pourri, tellement dégradé. Les mouches sont là que finalement, eh bien, on met une apparence. Mais Jésus a véritablement dénoncé l'apparence. Hein, quand il dira, mais les hypocrites, hein, il y en a partout. Hein. Ouais, carnaval. Alors, ça c'est dit, naturellement, c'est important, parce que notre parfum à nous, il exhale la paix, la joie, la tendresse. Et si c'est le contraire pour un chrétien, on peut peut-être penser que le parfum a tourné, il a viré. C'est ce que l'on dit, hein. Des fois les dames disent, ben mon parfum, moi je l'ai laissé peut-être un peu dans un endroit où il fallait pas chaleur, lumière, et puis il a tourné, et alors après on le met à la poubelle, hein. Ça ne sert à rien, c'est comme le sel. Il est bon à être foulé aux pieds. Ça parfume les chaussures. Et voici les mouches mortes. C'est l'envie. C'est la jalousie. C'est l'orgueil. C'est l'exagération. Ce sont les médisances, les querelles, la grossièreté, les impolitesses. Ça ne paraît pas grand-chose, hein. Et pourtant. Et le parfumeur, pour préserver l'intégrité de ses parvins, il va les couvrir. Ouais. Bon, il y a toujours des bouchons, hein. Parce que ce serait intransportable. Mais il va les couvrir et les tenir à l'égard des impuretés corruptrices. Eh oui, Et ça, c'est important que nous nous en faisions. Je voudrais que ça soit pratique ce matin, mais c'est vrai. Ou nous le rappeler en tous les cas. Ce qui va gâcher le témoignage, au lieu d'attirer, va devenir répulsif. Il est chrétien, lui ? Elle est chrétienne ? Enfin, dites donc, hein. Moi, je n'irai pas m'en approcher, hein, parce que finalement, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Hein. L'apôtre Paul nous parlera du levain, qui fait lever toute la pâte, qui fait fermenter toute la pâte. Vous connaissez ça. Alors, si nous pouvons tirer une première conclusion de la situation de l'huile du parfumeur, des mouches mortes qui tombent dans l'huile du parfumeur, je crois que nous avons besoin de demander à Dieu, mais de demander à Dieu parce qu'on ne va pas être capable tout seul. Ça, j'insiste, hein, pour que vous ne vous découragez pas, mais on a besoin d'une discipline de propreté dans notre vie, de langage, d'expression avec notre langue, dans nos pensées, dans notre conscience, dans nos tendances innées qui nous sont propres. On n'a pas tous la même chose. Devant peut-être certaines tentations auxquelles nous pouvons succomber, c'est humain, c'est naturel, mais de demander la grâce de Dieu. Ouais, de demander la grâce de Dieu parce que c'est lui qui nous purifie. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous régénère. Et combien parfois nous sentons quelquefois dans notre propre cœur ces mauvaises odeurs, hein, si je peux m'exprimer ainsi puisqu'on reste dans le même thème. Et de dire, eh bien Seigneur, j'y arriverai quand même. Eh bien moi, permettez-moi de vous dire ce matin, vous n'y arriverez pas tout seul. C'est pas le légalisme, c'est pas l'ascétisme, c'est pas vos efforts que vous allez essayer de déployer d'une manière ou d'une autre en disant, Seigneur, je veux sentir bon. Eh oui, non, c'est de venir humblement de dire, Seigneur, tu vois, moi j'essaie de, j'aime être comme tu es. Oui, purifie mon cœur. Comme le feu du fondeur, vous connaissez là, hein, c'est un beau cantique. Hein. Mais Seigneur, moi tout seul, j'y arriverai pas. J'ai besoin de ton parfum. J'ai besoin du parfum du ciel. J'ai besoin de ton odeur, Seigneur. Et c'est souvent dans un abandon entre ses mains. Laissez l'œuvre du Saint-Esprit se faire. Pas se fabriquer des parfums soi-même, parce que ça c'est du bricolage. C'est le légalisme ça. C'est l'ascétisme. C'est vouloir y arriver nous-mêmes. Ça a des apparences, on l'a vu, tiens, justement, dernièrement. Ça a des apparences d'humilité, ça a des apparences de sagesse, ça a des apparences de grande piété. Mais c'est rien de tout ça, finalement. Parce que pourquoi Jésus est-il mort? Il est mort parce qu'il savait très bien, et Dieu sait très bien qu'on n'y arrivera jamais tout seul, et on a besoin de lui. Ah oui, discipline, et prévenir la fermentation du péché à l'intérieur de nous-mêmes. On est sauvé, on est pardonné, ça c'est sûr. Mais il y a encore le vieil homme qui est là. Hein. Ah, le vieil homme, il s'est pas lavé depuis longtemps. Hein. Parce que l'homme nouveau, il s'est lavé avec le sang de Jésus. Et il est propre. Laver avec du sang, ça fait des taches, non? Eh bien, c'est ça justement le paradoxe. Ouais. Nous étions morts, et quelqu'un est mort à notre place, pour que nous puissions être vivants. Prévenir la fermentation, pour que notre vie ne devienne pas une vie de chrétien âcre, acide, dénaturé, impropre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de pire que le meilleur qui tourne et qui vire, tout simplement. Alors, le meilleur, brièvement. Du pire au meilleur. Le meilleur, c'est Jean qui nous en parle. Jean nous en parle dans son évangile, forcément. Et au chapitre 12, nous avons cette parole qui est quand même très intéressante. Parce qu'il est toujours question de parfum, là. 12, verset 1er, c'est toujours une histoire de parfum. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Ouais. Là, du pire au meilleur. Hein. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie. Eh oui. Ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle les essuya, et elle essuya les pieds avec ses cheveux, écoutez bien la suite, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison a été remplie de l'odeur du parfum. Elle a ouvert. Elle a oint les pieds de Jésus et avec ses cheveux, elle les a essuyés. Un geste extraordinaire un geste d'amour. J'aime bien cette expression, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ma maison personnelle, je veux qu'elle soit remplie de l'odeur du parfum de Jésus. La maison de Dieu dans laquelle nous sommes, je veux qu'elle soit remplie de l'odeur du parfum de Jésus-Christ. C'est lui qui est au milieu de nous, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui règne. Il est dans son temple et dans son palais. Est-ce que nous serions des mouches pour gâter sa présence avec des mauvais sentiments, avec du ressentiment, avec une haine, avec un défaut de pardon, avec toutes sortes de choses? C'est mouches. Ah, il faut les chasser, hein. Ne prenez pas d'insecticide, ça fait tousser et ça empoisonne et c'est toxique. Prenez plutôt la tapette. Ou le lance-pierre. Enfin, vous faites comme vous voulez. Eh oui. Alors, si nous faisons la chasse nous-mêmes, je peux vous dire que nous allons nous intoxiquer, hein. Mais le Seigneur est là. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Parfum d'amour. Un témoignage de foi et d'affection de la part de Marie. Ce qu'elle n'était pas obligée de le faire, elle lui a déjà fait à manger. Elle le recevait chez elle. C'était une joie, son frère était ressuscité. Comment ne pas accueillir celui qui a bouleversé la vie de cette famille à trois personnes, les deux sœurs et le frère. Elle n'a pas trouvé mieux. Un parfum de nard de Grampy. Il paraît que ce parfum-là valait à peu près, il avait la valeur d'une année de travail. Alors je ne sais pas combien vous gagnez, ça ne me regarde pas, mais imaginez-vous que vous fassiez un cadeau qui vaut une année de labeur et de travail, de sueur et de transpiration, et que vous l'offrez. C'est pour vous dire que, je ne sais pas si elle avait été cherchée chez Guerlain, ou je ne sais pas, moi, dans les plus grands, Nina Ricci, ou comment on appelle ça, là, il y en a un qui est numéro 5, là, c'est... Eh ben, vous savez que vous connaissez bien le parfum, dites donc. Ah, ça, c'est formidable. Chanel numéro 5. Ah, oui. Tu me fais penser pour ton anniversaire. Ah, Marie, elle est extraordinaire, hein. Formidable. Ouais. Témoignage de foi et d'affection pour la sainteté de Jésus qui était dans sa maison. Ah oui. Sainteté. Sa présence qui exalte le parfum de grand prix. Alors notre vie, notre maison, notre couple, notre famille, rempli de quoi? Normalement, Jésus est l'invité permanent. Jour et nuit, il est là. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans nos maisons, nous prions, n'est-ce pas? Nous louons le Seigneur. Nous lui donnons la priorité là où deux ou trois sont rassemblés en priant. Eh bien, je suis au milieu d'eux. Donc, ça correspond bien à notre vie la plus commune, la plus courante, la plus quotidienne, en quelque sorte. Ouais, sentir et ressentir, Seigneur. Et je reviens au premier message, au premier texte que nous avons lu, donc on revient dans Luc chapitre 19, parce que tout ça, ça se tient, je tiens quand même à vous le dire, et ça n'a pas échappé à votre attention, mais c'est quand même quelque chose de important. Donc, chapitre 11, verset 19, hein, qu'est-ce qu'il nous est dit? Alors, on peut lire à partir du verset 17, hein, peu importe. « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Mais tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, c'est la logique la plus déconcertante, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse, moi, Jésus, le Saint de Dieu, votre Messie, que vous déniez, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ?» Le diable va pas chasser le diable. Ils se connaissent, hein. Il se connaît bien, lui. Et il va pas se tirer une balle dans le pied. Comme on dit, une expression. Si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Vos prophètes, vos exorcistes, vos magiciens, vos astrologues, parce qu'il y en avait, hein. La cabale juive, ça existe, hein. Ça a toujours existé, hein. Tout ce monde ténébreux, tout ce monde, on pourrait dire non, et pourtant Dieu leur avait dit qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui invoquent les esprits, etc. C'est pas parce que Dieu l'a dit qu'ils ne l'ont pas fait, hein. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait pendant des siècles, ils le font encore, hein. Vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais voilà, nous arrivons au verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Quand Jésus, il chassa un démon, de quelqu'un qui avait un esprit muet, hein, d'accord? Si c'est par l'odeur de Dieu, par la puissance de Dieu, entendez par là, hein, par l'autorité du nom de mon Dieu, de mon Père, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est ce que Jésus voulait leur faire comprendre. Il blasphémait, il l'outrageait, et de dire, vous êtes en train de dire ça, c'est moi. Mais moi, je voudrais vous dire que vous l'avez fait avec votre haine et votre mépris et votre envie. Mais pourtant, le royaume de Dieu est venu en voyant cet homme qui était muet, habité par un démon et qui a été guéri. Ça, c'est la preuve. Le royaume de Dieu, donc, est venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il la possède en sécurité. Mais si quelqu'un vient de plus fort, donc en l'occurrence Jésus est plus fort que tout, toute autorité lui ont donné dans le ciel et sur la terre, alors à ce moment-là, eh bien, il prend ses armes et il les dépouille. Le diable a été vaincu, hein, frères et sœurs, je voudrais vous le rappeler ce matin. À la croix du calvaire, il a été mis à terre. Il a été précipité, finalement, sous les pieds de Jésus. Et à chaque fois que nous prions et que nous réclamons au nom de Jésus la victoire, nous l'avons. Nous ne l'attendons pas, nous l'avons. Il suffit d'y croire. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Eh oui, c'est un examen de propreté, là. Il faut savoir un peu où vous en êtes, hein, ce que vous croyez et ce que vous ne croyez pas. Nettoyage, du sale et du souillé, pour devenir propre. Jésus est en train de leur mettre un peu les idées en place. Et je termine à travers les textes qui viennent ensuite. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Et n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison et s'y établit, c'est la dernière condition, et pire de cet homme, et pire que la première. Vous avez remarqué, la maison a été balayée et ornée. Elle était embellie. Notre vie a été balayée, elle a été ornée, elle a été finalement parfumée, nous pourrions dire, avec notre conversion. Vous êtes d'accord avec ça? Vous sentez peut-être encore quelque chose qui ne vous convient pas, mais le Seigneur l'a fait. Nous avons été lavés, blanchis, nous dit l'apôtre Paul, par le sang de Jésus. Votre maison aux yeux de Dieu, Dieu ne regarde pas en disant « Quelle horreur cet homme ou cette femme ou ce chrétien !» Non. Nous l'avons chanté tout à l'heure et ça a été signalé à travers Kader, hein, qu'il trouve en nous sa joie. Il fait de toi sa plus grande joie. Pourquoi es-tu triste? Quelque chose que tu n'aurais pas compris? Forcément. Alors, nous sommes maintenant... Il n'y a plus de mouches. Les mouches, elles ont été détruites, hein. Toutes ces choses ont complètement disparu. Alors, une maison balayée, ornée, c'est ce qu'est devenue l'Église de Dieu. Elle n'est pas parfaite, l'Église de Dieu. Oh, il y a beaucoup d'imperfections, il y a certainement des choses, beaucoup de choses même encore, mais néanmoins Dieu la voit comme celui qui est venu eh bien, faire le ménage à travers le don, l'expiation de Jésus-Christ, tout simplement. Ce qui nous ramène à cette parole que moi j'aime beaucoup, j'y pense tous les jours. Il a été fait pour nous, sagesse. On parlait de la sagesse et de la folie, hein. Et pourtant, je ne suis pas sage. Je le sais, moi. Il a été fait pour nous, sagesse. Il a été fait pour nous, justice. Et moi, je ne suis pas toujours juste. Il a été fait sanctification, régénération. Il a été fait pour nous, rédemption. Et je pense que nous avons besoin de nous imprégner de ces choses pour que nous puissions, eh bien, exhaler la bonne odeur de Jésus-Christ. Alors, puisque nous avons été nettoyés, puisque nous avons été blanchis, purifiés, à ce moment-là, à qui nous avons laissé la place? Et ça, c'est important de le dire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, c'est ce que le Seigneur a fait, nous sommes maintenant dans un nouvel état d'esprit. Nous ne sommes plus soumis au vieil homme, avec ses caprices et avec ses folies. Nous sommes maintenant l'homme nouveau. Les choses anciennes sont parties, sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand il se passe ce phénomène, finalement, eh bien, de conversion, etc. Il nous est dit que l'esprit impur, il va dans des lieux arides et il cherche du repos parce que le diable, enfin les démons en particulier, les esprits mauvais, ils ne peuvent pas se contenter du vide et du néant. C'est comme ça. Voilà. Vous savez qu'ils ont même habité chez des cochons. Hein. Connaissez l'histoire? Jésus a chassé dans un troupeau de pourceaux. Et les possessions, d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas faire de démonologie maintenant, parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais vous dire qu'ils ont besoin d'avoir, de cristalliser leur haine et leur méchanceté et leurs actions mauvaises et de mort sur quelque chose. Les animaux, sur les hommes, sa destination particulière, le gadarénien. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il n'était pas tout seul, il avait une légion avec lui. Hein. Puis bien d'autres cas comme ça. Marie-Madeleine, quand Jésus nous dit, cette femme qui était délivrée de 7 démons. Puis bien d'autres. La femme qui était courbée, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Dans les infirmités physiques, dans les infirmités morales, dans les infirmités psychologiques, même dans ce qui peut nous atteindre au plus profond de nous-mêmes, dans notre vie spirituelle. N'ayez pas peur, frères et sœurs, le Seigneur nous délivre. Il nous a délivrés, hein. Alors le diable, il dit, voilà, je me suis fait expulser de ma maison maintenant. Allez, j'étais mis à la porte. J'étais spolié de mon domicile. Alors il cherche du repos. Parce que le repos du diable, c'est de tourmenter les hommes. Et lui, il trouve le repos en nous tourmentant. Accusateur des frères. Quand il peut nous mettre sur le grill et qu'il le fait jour et nuit, mais il est content, parce que c'est sa nature. C'est son essence même de faire du mal. Alors il cherche du repos et il n'en trouve point. Et il se dit à un moment donné, il me dit, tiens, je pourrais bien repasser dans ma rue, dans mon quartier, où j'habitais dans le temps et j'étais si heureux, parce que ce chrétien ou cette chrétienne, qu'est-ce que je l'ai tourmentée, et elle marchait. Et ça fonctionnait. Alors il se dit, ben, je vais y retourner dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il dit, enfin, dis donc, le nettoyage a été fait, hein. Le nettoyage, il sait très bien qui a fait le nettoyage, hein. Il le sait, hein. Il est stupéfait, il la trouve balayée, ornée. Il se dit, moi, je vais rentrer dans ce cœur, dans cette conscience, dans cet esprit, dans cette personne, et je vais y mettre un souk. Ça va, vous comprenez le langage? Je vais y mettre le bazar, le désordre. Je vais y mettre la confusion, je vais y mettre la révolte, je vais y mettre la mort. Parce que ça, c'est mon travail de faire ça. Je ne sais faire que ça, d'ailleurs. Il la trouve balayée, ornée, et il s'en va. Et comme il s'est fait expulser une première fois, il ne veut pas revenir tout seul. Il prend, d'après le texte biblique, dites, c'est Jésus qui nous l'enseigne, hein, c'est pas moi. Hein. Il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il dit, j'ai trouvé une maison. Tu vas voir, c'est pas du squat, hein, mais c'est quelque chose de bien, tu vas voir. Hein. C'est propre, c'est bien, c'est formidable, il n'y a pas une mouche. Et ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, et je vais terminer, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci, que si véritablement une maison balayée, ornée, ce qui est notre cas, n'a pas été remplie par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien nous nous exposons finalement à laisser rentrer toutes sortes de mauvaises choses, comme dans le pire que nous avions connu auparavant. Et il nous est dit que le pire n'est rien, celui d'auparavant, par rapport au pire à venir. Mais, mes frères et sœurs, vous êtes repentis de vos péchés? Oui. Vous croyez en Jésus-Christ? Oui. Vous vous êtes convertis en Jésus-Christ? Oui. Vous avez obéi à Jésus-Christ en descendant les eaux du baptême? Oui. Vous allez me dire, mais je suis pas baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes né de nouveau. D'accord? Croyez que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, mais néanmoins, vous êtes né de nouveau, vous appartenez au Seigneur. Ça, c'est une incitation à dire, Seigneur, maintenant, je souhaite et je désire, j'ai soif d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça. Déjà, vous appartenez au Seigneur. Moi, je dis qu'il n'y a pas de chrétiens de première zone et de seconde zone. On est tous des chrétiens, des enfants de Dieu, et Jésus nous a sauvés tous. Parce que quelquefois, on a argumenté là-dedans pour culpabiliser les frères et les sœurs, et moi, je m'insurge devant ça. Non, on a cru en Jésus, on est sauvés. C'est clair, hein? Ne laissons aucune place. Demandons à Dieu, parce que là encore, on n'y arrivera pas tout seul, mais demandons à Dieu que la place soit prise par l'Esprit de Christ, par la vie de Christ en nous, les pensées de Christ, les sentiments de Jésus-Christ, ayez les sentiments de Christ. Connaissez le texte, hein? Que si nous sommes remplis de Christ, il n'y aura pas la place pour l'autre. Il n'y aura pas de place pour les mouches, parce que les mouches, ça ne s'approche pas de Jésus. Hein. L'odeur de Jésus, ça les fait mourir, ça les fait tomber. Hein. Remplis, mon cœur, une lettre écrite, un parfum de bonne odeur. Alors, ne laissons pas les mouches, ne laissons pas le Dieu des mouches, Belzébul, infecter notre vie tout à nouveau. Vous allez me dire, mais Seigneur, c'est difficile. Si vous entendez ce message ce matin, parce que vous avez des oreilles pour l'entendre, le Seigneur va vous donner, finalement, de compter sur lui, il va vous appeler à compter sur lui, et ne pas vous battre avec toutes sortes d'insecticides et toutes sortes de choses qui sont là, complètement inopérants et que vous n'y arriverez jamais, mais ouvrez votre cœur et votre maison intérieure, elle sera remplie par Jésus. Et là, vous pourrez chanter, vous pourrez louer le Seigneur, vous pourrez l'adorer, vous aurez des problèmes et des difficultés. Mais les mouches, elles seront dehors, elles seront pas à l'intérieur. Alors à ce moment-là, le Seigneur va nous donner de vivre notre vie chrétienne, finalement dans l'épanouissement et dans le développement progressif, normal, dans toute notre vie. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, que le Seigneur nous donne sa grâce, et on va simplement nous incliner pour dire « Mais Seigneur, je crois en toi, et c'est toi qui fais le ménage. C'est toi qui me purifie, c'est toi qui me fais grandir. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour ces images, parce que ce sont des images. Les mouches qui infectent l'huile du parfumeur, c'est une image, c'est une parabole. Mais lorsque Jésus a dit, devant les outrages et devant les accusations, en effet, ce qu'il a pu entendre, moi je crois que ça c'est la chose grave, d'avoir été convaincu comme les Juifs l'étaient, et de finalement, taxer Jésus d'être un agent, tout simplement, de l'ennemi, de l'adversaire. Seigneur, nous ce n'est pas notre cas. Nous honorons Jésus, nous confessons son nom, nous bénissons, nous exaltons. Seigneur, ce nom qui est admirable et merveilleux, ce nom qui est éternel, ce nom qui n'est que sainteté, qui n'est que justice, qui a accompli la rédemption, qui est la sagesse, et qui nous donne, Père éternel, de vivre dans la justice. Seigneur, nous sommes justifiés à travers le sang de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de cette parole, que tu me laisses, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est notre part ce matin aux autres. Oui, plus aucune condamnation. Et il n'y a plus rien qui peut attirer, à travers notre vieille nature, notre vieil homme, Père éternel, toutes ces mouches qui nous tourmentent, toutes ces choses impures, et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu passes maintenant dans les rangs, tu nous visites, et tu crées en nous, Seigneur, un esprit. En effet, crée en nous, crée en moi, un cœur pur et un esprit bien disposé. Merci Seigneur, tu passes maintenant, tu sais notre faiblesse. Tu connais que nous sommes que des hommes. Notre nature parfois, elle n'est pas toujours bonne. Mais nous croyons qu'en effet, nous savons Seigneur, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Merci mon Sauveur et mon Seigneur. Merci Jésus, bénis ton Église. Bénis particulièrement les plus faibles et les plus vulnérables. Les nouveaux-nés spirituels, qui ne connaissent pas encore tous ces principes, qui sont en train de les découvrir, qu'ils puissent repartir avec la paix et la joie, et pouvoir dire, portez au loin, portez auprès, la bonne odeur de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.